Quand j'ai écouté Léo Ferré pour la première fois, je n'ai pas aimé. Je ne comprenais pas, je crois. Pourtant, j'étais interpellée, touchée comme rarement j'ai pu l'être. Je suis une brebis noire. Mon milieu social modeste m'aurait-il empêché de découvrir plus tôt la puissance des grands poètes, de cultiver le vague souvenir d'un Léo Ferré sur scène, comme cela est arrivé à certains de mes contemporains, enfants de la génération 68, embarqués par leurs parents anarchistes? Je les envie en fait. Mes amis ne comprennent pas mon adoration pour son œuvre qu'ils jugent dépressive. Les femmes de mon âge le regardent comme un misogyne. Alors je m'interroge sur ce qui me touche autant, moi, Lucie, jeune femme un peu en marge, un peu naïve ou ingénue, dans l'œuvre de ce poète. Ce poète un peu oublié par ma génération, un peu controversé ou incompris. Eh bien tant pis pour ceux qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas voulu comprendre, et basta.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude...
C'est à trop voir les êtres sous leur vraie lumière qu'un jour ou l'autre nous prend l'envie de les larguer. La lucidité est un exil construit, une porte de secours, le vestiaire de l'intelligence. C'en est aussi une maladie qui nous mène à la solitude.
La solitude.
Quand je suis tombée sur ce texte, j'ai soudain compris ce qui m'avait poussé quelques années plus tôt à quitter la ville sur un coup de tête. La Toscane, pour Léo Ferré, c'est un choix d'exil. En exil, on peut trouver le bonheur. Un truc qui vous surprend quand le chagrin se repose.
Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais... la solitude.
Ici, sans télé ni journée, mais avec des pâtes dans mon assiette, un chien pour mes promenades et la chaleur des miens, j'ai su apprivoiser la joie.
La solitude. La solitude. La solitude. La solitude.
Je comprends alors que ce qui m'a profondément touchée pendant toutes ces années me dépassait. Mais je commence à effleurer du bout des doigts le sens de son œuvre. Je contacte Mathieu, son fils. Il m'invite à venir le voir en Toscane pour en discuter.
Ok, c'est parti. Un petit rajustement de micro. Ok, tout va bien. C'est bon. Donc, micro dans mes oreilles.
Alors, GPS, nous allons donc à San Donatino. Ah, j'ai quand même 25 minutes de route. Je crois que Mathieu m'avait dit vers 18h, j'arrive à 18h05. Pour démarrer, tu passes la première et t'appuies sur le bouton start. Excellent. Hop, voilà. Je vais quand même foutre ma ceinture.
Bon, et ben là, je prends la route et je vais à la cave. Il commence à faire nuit. Okay. Les routes sont sinueuses. C'est pas évident, c'est que des petits chemins de terre pour arriver au domaine de Léo, mais ça va aller, ça va aller.
À mes oiseaux piaillant debout, chimiques sous les becs de la nuit, avec leurs crêpes de coutil et leurs fourreaux fleuris. À mes compagnes de perrasse, à mes frangins de l'entreprise, à ceux qui gerçaient leurs chemises, aux chiffres de Bernoulli.
Voilà, donc là en fait, t'arrives déjà. C'est un premier panneau avec écrit la maison de Léo, San Donatino.
Si vous rappelez mes chefs de la romance, nous sommes pour un langage auquel vous n'entrez que quick. Nous sommes des chiens.
400 mètres à gauche.
Et les chiens, quand ils sont dans la compagnie, se dérangent. Et on leur fout la paix. Nous voulons la paix des chiens. Nous sommes des chiens de bonne volonté. Nous ne sommes pas contre le fait qu'on laisse venir à nous certaines chiennes.
respiration qui monte là. Bon, ça va mieux, ça me fait du bien en fait de parler là sur mon enregistreur. Oh putain, je déraille. Ça me fait du bien de causer, de vider un peu tout ça. J'aurais hyper aimé lui causer, juste lui dire deux mots.
Comme un chien.
Juste lui dire merci en fait. J'aurais bien aimé lui dire merci.
Je suis un chien.
Oui. Tu peux te garer derrière la Citroën.
Derrière la Citroën, d'accord, ok.
Après, moi je dois partir, mais
ouais.
Il y a Charles qui t'accompagne à la maison.
D'accord, super, merci. Derrière la Citroën, c'est quoi, c'est une Citroën ça? Le lieu est magnifique, la maison est hyper belle. Donc là je suis carrément rentrée dans la maison quoi. Il y a des photos de Léo partout. Partout dans la maison. Complètement habité quoi. Je vois des photos de Léo que personne n'a jamais vu en fait. Personne qui... Il faut venir ici pour aller voir ces photos. On le voit lui avec ses enfants, avec sa femme, on le voit en vacances, on le voit à la plage. C'est complètement dingue. Enfin, j'ai une chance inouïe d'être là. Ça aurait pu se passer autrement, ça aurait pu être juste Mathieu qui m'accorde un entretien dans un... dans le jardin, je sais pas, mais en fait ils m'accueillent juste chez eux quoi, chez eux dans leur foyer, partager un repas. Et j'espérais pas tant. Mathieu est vigneron dans la maison familiale des Ferré. Il y vit avec sa femme, son fils et sa mère Marie-Christine. Je l'interroge sur l'œuvre de Léo. Lui aussi m'apparaît parfois un peu dépassé par l'immensité de l'œuvre de son père. Bonjour Mathieu.
Salut.
Ça va? Ta bosse? Je suis arrivé il y a une petite demi-heure et puis j'ai fait un petit tour, voilà.
J'ai vu Manola,
ouais, du coup, comme ça, j'ai pu régler la chambre et tout. Et puis, j'attends qu'elle revienne, j'ai pris dans le petit bac, là, il y avait deux albums que j'avais pas. Donc voilà. Cool.
Je m'appelle Mathieu Ferré, donc je suis, voilà, Mathieu Ferré, vigneron, anarchiste, et puis voilà, quoi. Mais sinon, c'est la seule référence au nom Ferré qu'il puisse y avoir. Ben, on est à Castellina-Chianti, dans le bureau de Léo. Donc ici, il préparait son tour de chant. Il décidait les titres qu'il allait faire. Et puis, dans la pièce à côté, après, il y a le piano. Et puis, un autre endroit qu'on appelle l'imprimerie, où il travaillait beaucoup là-bas aussi, parce qu'il était très passionné par l'imprimerie. Et on a acheté plein de machines pour imprimer des choses. Enfin, des choses, il a écrit, publié un bouquin, et le bouquin de son ex-femme, et puis des partitions, voilà, parce qu'il écrivait lui les orchestrations. Donc quand il arrivait au studio, ben, les musiciens, ils avaient toutes les partitions imprimées comme il faut.
Quand on voit la maison ici, bon, comme toutes les maisons de famille, il y a des photos de famille, mais clairement, Léo, il est là partout, sur les murs, les photos, plein de trucs et tout ça. C'est le fantôme de la maison, c'est...
Non, mais il est là, Léo, quelque part, je sais pas, c'est...
Il ne peut que être là, en fait, c'est pas...
Non, il peut être plein d'endroits, peut-être qu'il est à Hong Kong, dans un appartement au 403e étage, parce qu'il y a un gars qui est en train d'écouter Léo.
Non, mais je veux dire, est-ce que...
Whisky,
oui, c'est ça, noir, certainement.
Il est en train de pleurer, il se dit, putain, c'est beau, qu'est-ce qu'il dit ce gars-là, je partage, et c'est voilà, et il est partout et nulle part, et voilà. Donc ici, il a vécu ici, mais... C'est pas qu'on a mis des photos de Léo.
C'est que c'était déjà là, toutes ces photos qu'il y a partout, ces tableaux, ou bah, pas?
Oui, sûrement. Enfin, ouais, plein de choses étaient déjà là.
Est-ce que t'avais quel âge quand il est mort, Léo?
23 ans.
23 ans. Ouais. Et t'as quel souvenir de ton père? Tu gardes quel souvenir? Parce que jusqu'à 23 ans, du coup, t'as eu le temps,
ouais,
vachement de passer
de
du...
souvenir, ouais. Je sais pas, qu'est-ce que je te dise, un père... Mais moi, je dis
c'était toujours, chouette, il était chouette.
Oui, tout à fait. Mais moi, je dis toujours, Léo, ces deux entités, pour moi, c'est mon père biologique, mon père qui est mort dans un trou à Monaco. Et puis après, il y a le poète, le chanteur, l'auteur, ce que tu veux, le musicien qui a laissé une œuvre et qui est là, et qui elle, est toujours vivante et qui, moi, me touche tout le temps, encore beaucoup. Et si je ne pense pas que ce soit du fait parce que ce soit mon père, parce que mes sœurs sont beaucoup moins impliquées Et je dis pas qu'elles aiment pas leur père, attention. Hein, mais, moi, c'est un peu obsessionnel, un peu. Je peux fixer, quoi. C'est comme une drogue, un peu, quelque part.
T'avais déjà pris conscience de la puissance de ce qu'il écrivait?
Non. Bien sûr que non. Mais je l'ai pas encore fini. Et heureusement, c'est ça qui. C'est un mouvement, c'est comme une marée, quoi. C'est jamais. C'est pas figé, Léo. C'est. Moi, j'ai des fois écouté des choses ou lu des choses il y a 20 ans et je les relis aujourd'hui, c'est différent. C'est là où je te dis, où, voilà, quoi, pour moi, c'est pas de la chanson parce que, voilà, une chanson, c'est une histoire, voilà, elle est jolie, elle a les yeux bleus, ah, je suis triste parce qu'elle m'a quitté, voilà, des trucs un peu banals comme ça, oui, bon, c'est. T'as vite fait le tour et puis quand tu l'as compris à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, c'est toujours la jolie fille aux yeux bleus qui m'a quitté, qui m'a fait de la peine, quoi. Bon, oui, d'accord. Mais tandis que dans l'écriture de Léo, c'est tellement riche et dense que moi, encore aujourd'hui, il y a des choses que je difficile de comprendre ce qu'il veut dire. Mais j'en suis content, je suis heureux de ça parce que ça me dit. Comme ça, ben je peux peut-être un jour avoir comme ça. Parfois, j'ai des bulles comme ça qui explosent et je me dis, ah oh putain, ça y est, c'est ça qu'il voulait dire. Enfin, qu'il voulait dire. C'est comme ça que j'ai au moins un ressenti de quelque chose. Parce que des fois, je me dis,
que ce type était rayonnant. Quoi. Rayonnant de bonté, de générosité, de compréhension des choses. Mais Léo, c'est vrai que tout le monde a voulu lui coller des images simplement parce que c'est un homme qui parle. C'est aussi con que ça, quoi. Un homme qui dit vraiment les choses. Qui parle en son âme et conscience. Et qui sont deux mots là qui prennent tous leur sens. Et le tout chapeauté par le cœur. C'est-à-dire par l'émotion qui est dans sa voix. Je dis qui était, mais en fait je pense qu'il est parce que on peut écouter toujours maintenant et c'est la même chose, même si physiquement il n'est plus là. Pour moi, c'est un homme qui est extrêmement présent. C'est un capteur et il renvoie, quoi. Il avait cette force-là de dévoiler des mystères et en disant des choses, justement, que si les gens les effleurent sans vouloir rentrer dedans, c'est leur problème, hein. C'est pas... Tant pis pour eux, quoi.
À un moment, si tu t'intéresses un peu, si tu es un peu curieux, tu t'intéresses à la chanson, à certaines choses, à un moment ou à un autre, forcément, tu vas tomber sur Léo. Je sais pas comment, mais à un moment, tu vas y tomber. Même si ça vient pas de ta famille. Et alors après, voilà, à partir du moment où tu tombes dessus, ben, tu peux justement avoir cette perception de changement ou te dire, ah ben non, mais ça m'intéresse pas, ou rester en superficialité, quoi. Moi, je préfère que quelqu'un me dise, je déteste Léo Ferré, que les gens, ah Léo, ah, c'est fantastique, j'adore, quel génie, tout ça, quelle belle chanson, le Sud. Voilà, quoi, Léo, ça s'adresse à une minorité sûrement, et c'est tant mieux, parce que moi je trouve que ça le rend un peu, quelque part, un peu maudit, quoi, et puis pourquoi pas, et puis comme ça, moi je me dis, comme ça, c'est que certaines personnes qui vont l'approcher et pas le bétail, quoi. Non, je pense que le gros problème de Léo, c'est pas tant la durée du truc, c'est pas facile d'accès pour la plupart des gens, quoi, par rapport au texte, je trouve. Il y a quelques années, justement sur La mémoire et la mer, il y a un passage où il dit ce chien de mer que nous libérions sur parole, etc. Et donc voilà, un chien de mer, enfin, c'est tout ça, ça peut évoquer plein de choses, quoi, je veux dire, tu vois. Et puis, Maurice Fraud, qui a côtoyé beaucoup Léo et qui a travaillé avec lui pour lui. Mais je vais vous expliquer. Alors oui, La mémoire et la mer, c'est quelque chose de difficile, mais il faut les clés parce que sinon on ne comprend rien. Je vais vous en donner une, voilà, le chien de mer, c'est si, il raconte une histoire, bon, oui, d'accord, mais c'est aussi, là, je trouve, une espèce de volonté cachée de banaliser quelque chose, parce que tu veux aller donner une explication de quelque chose qui, pour certains d'autres, pour quelqu'un d'autre, peut être tout à fait différent, donc voilà, quoi. Donc, non, moi, je pense qu'il faut pas que les auteurs expliquent ce qu'ils écrivent. D'ailleurs, bien souvent, ils en sont incapables. Que même, je pense que des fois, il a écrit des trucs, peut-être que, oui, ça devait... Je sais pas quoi te dire, ça c'est trop difficile, je peux pas parler pour lui, mais... Et je suis dicté, c'est pas moi qui écris, c'est quelqu'un d'autre.
Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, lui qui gueule. dans le désert, des gréements de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle. Quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rares au ras des rocs qui se consument, l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Qu'un chagrin de ma solitude. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc-en-ciel où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui meurent. Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux, s'en vient battre comme une porte, cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage, le sable belle comme des moutons d'infini.
C'est quelqu'un d'entier. C'est ça aussi chez des beaux êtres humains comme ça, c'est qu'ils sont entiers, quoi. Ils ne sont pas la moitié de quelque chose, quoi. Léo Ferré, avec tous ces débordements. Mais c'est ça que j'aime aussi, putain. Attends, moi, ça me fait chier les gens qui sont à moitié quelque chose.
Moi, je suis connu comme rien du tout. Moi, je ne suis pas connu. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas envie d'être connu. Je pense que je serai odieux. Certainement. Odieux. Déjà, il veut être célèbre. Pourquoi ? Je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs, être célèbre. Si t'as rien à dire, t'as resté anonyme. Hein. Pour beaucoup de gens, l'important c'est paraître. Bon, alors après, à partir de là, Léo il était pas comme ça et il fallait qu'il écrive et qu'il dise ce qu'il avait à dire. C'était sa façon de. Sa vision et peut-être sa façon de. Son espoir de. Que les gens puissent peut-être devenir un peu plus intelligents. Mais bon, c'est perdu d'avance. Je suis bien plus pessimiste qu'il ne pouvait être, lui, sûrement. Moi, je vois toujours le verre à moitié vide.
Ah mince, pour un vigneron, c'est dommage.
Ah ben non, c'est bien, parce que comme ça, il faut le remplir. Non, mais c'est cuit. On est vraiment à la fin du truc, là. Et puis, plus ça avance, et pire ce sera. Parce que on devient de plus en plus con, quoi.
Enfin, je sais qu'il y en a qui sont tellement acharnés sur lui, tu sais, à vouloir ricaner comme des imbéciles. Parfois. Mais c'est des crétins. Ah tiens, encore un crétin de plus qui n'est pas à l'écoute et qui n'entend pas ce que cet homme lui donne. C'est comme on t'amène un merveilleux cadeau et tu dis « Ouais, bon, tu le mets de côté, c'est stupide. »
Enfin, c'est pas qu'il voulait le rendre plus intelligent, mais quand il a fait tout cet énorme travail sur la poésie, par exemple, hein, il a mis en musique plein de poètes, pourquoi il a fait ça ? Alors quelques mauvaises langues peuvent dire pour gagner du fric, sûrement, hein, d'accord, facile ça, mais surtout pour partager sa connaissance de la poésie, sa passion de la poésie qu'il avait à des gens qui, forcément, peut-être, ne l'avaient pas comme lui pouvait l'avoir. Il prenait souvent l'exemple d'un. Voilà, il marche dans la rue, puis il y a un chauffeur de camion, comme ça, je ne sais pas qui passe, il dit Ah, monsieur Ferré, monsieur Léo, quand est-ce que tu nous chantes le pauvre bœuf à la télé ? Voilà, donc ça veut dire que ce gars-là, il y avait eu quelques mots qui étaient rentrés dans son esprit, dans son cœur, dans sa tête, dans son quotidien. Et même s'il ne savait pas qui c'était Rudebeuf, d'ailleurs personne ne sait qui c'est Rudebeuf, moi non plus d'ailleurs, personne ne le sait. On connaît que quelques petits trucs, quoi. Hein. Et bien voilà, quoi, lui, il était content de dire, voilà, mais comme ça, il y aura quelque chose qui sera rentré dans l'esprit de ce gars-là. Et la même chose avec Rimbaud, avec Verlaine, avec Baudelaire. Essayer de donner des impulsions, en fait. Je pense que c'est ça qu'il voulait faire, d'ouvrir une petite porte sur une curiosité, voilà, pour voilà, lui dire, voilà, il y a aussi autre chose qui est beau, quoi. Et il y a plein de choses, et voilà, moi j'aime beaucoup Ravel, j'aime beaucoup Rimbaud, j'aime beaucoup Baudelaire, et je vous fais écouter, j'essaye de vous transmettre ce que j'aime. En tout cas, quand il faisait cette opération sur la poésie et sur la musique...
Ferré s'est toujours efforcé de populariser la musique savante, de mettre en voix et en musique les textes de grands poètes de différentes époques. Il souhaitait les rendre accessibles aux classes les plus populaires, et il avait réussi, j'en faisais partie.
On parle de Léo, mais en parlant de Léo, on parle aussi de tous les poètes qu'il a chantés, quoi. Parce que s'il a trouvé une correspondance, il s'est dit « mais il faut que les gens entendent ça, mais pour qu'ils l'entendent bien, il faut que la jeunesse entende ça ». Aussi un homme amoureux de la jeunesse, je te dis, chaque fois que je l'ai vu avec des jeunes gens, j'ai vu un regard d'une bonté, des êtres comme de cette qualité-là, humaine, ça traverse les siècles, ça. Tu peux coller Claude François dans une époque, j'ai rien contre Claude François, c'est juste ça me fait marrer parce que de penser à ça, mais tu peux coller ça dans une époque, tu dis c'est les années 50 ou les années 60, mais lui c'est pas les années, c'est les siècles. Tu sais plus où t'es, tu écoutes Léo Ferré, tu te retrouves. C'est par ces gens-là qu'on se forge soi-même. Et puis Léo Ferré, il te dit pas « imite-moi », il te renvoie à ta propre force, il t'oblige à réfléchir sur toi-même et à vaincre ta timidité ou tes doutes, qui sont une chose avec laquelle on travaille.
Aujourd'hui, quand j'écoute des textes de Léo Ferré, en fait, ça me fait changer mon rapport au monde, en fait.
Oui, oui, mais voilà. C'est pareil, je comprends bien. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, beaucoup de personnes pour qui Léo est fondamental dans leur construction psychologique et dans leur façon de vivre et d'affronter la vie de tous les jours et tout ça, et qui... Leur vie est différente parce qu'ils ont rencontré un jour ou l'autre, rencontré pas de personne, mais rencontré l'œuvre de Léo, la poésie de Léo, ce que tu veux, c'est certain ça. Et c'est très puissant ça, je trouve, parce que c'est pas en écoutant Claude François que tu...
Ah bah non, sachant que c'est là d'où je viens, hein. Mes parents écoutaient Claude François, moi j'ai... Voilà. Oui, non mais c'est que j'ai jamais eu accès à l'œuvre de Léo Ferré. Ma mère, pour être honnête, ma mère disait « Ah, c'est ringard Léo Ferré », parce qu'elle comprenait strictement rien de Léo Ferré. Et moi, j'en veux terriblement. Quand j'ai découvert vraiment son œuvre à 25 ans, j'en ai voulu terriblement parce que j'aurais aimé, au moins, j'avais 11 ans quand il est mort, j'aurais pu aller à un concert, au moins le voir, avoir quelque chose de... Même si, bah, c'est pas grave, je l'ai pas vu et je l'imagine, du coup, mais... Et j'ai l'impression de le connaître parce que je l'ai tellement écouté, même dans des interviews, mais
voilà. Tu fais partie de ces gens qui sont, voilà, ces fameuses, moi je les appelle les brebis noires, qui veulent à tout prix sortir de l'enclos et... de toutes leurs petites copines, les petites brebis blanches qui sont là, toutes heureuses, voilà, et puis t'as la brebis noire qui est, elle est différente, là, elle est à côté, elle est ailleurs, et puis elle veut pas être avec les autres, elle est séparée, quoi, parce que elle veut aller brouter un gazon différent, voilà, quoi, elle veut chercher l'aventure, et puis...
Qu'est-ce que tu penses de, tu te dis, c'est qui, elle, qui vient de Bretagne, pour me parler de Léo Ferré? Tu trouves ça bizarre, non?
Non, c'est très bien, je suis content.
Quand je me glisse dans le texte, la vague me prend tout mon sang. Je couche alors sous un prétexte que j'adultère vaguement. Je suis le sexe de la mer, d'un peu de brume, des avoues. J'ouvre mon phare et j'y vois clair. Je fais du wonder à la proue, je suis dans la marge. Du silence où l'on m'a laissé, musiquant des feuilles d'automne, je sais que jamais je n'irai fumer la cour de la Sorbonne, mais je suis gras comme un hiver analgésique, avec la rime au bout du verre, à la morgue de la musique. Je suis dans la marge. Je suis dans ton texte. Là, là.
Charles, un artiste peintre, est présent dans la maison familiale lors de ma visite. Nos échanges sont tendus, Il entretient tout un mystère autour de son lien avec Léo Ferré. Et ça m'agace un peu. Il m'explique que, selon lui, il faut être éduqué à l'art pour le comprendre.
Vous étiez un ami de Léo Ferré aussi, ou...
Oui, c'était un ami.
Je ne dis pas que je suis un ami parce que c'est prétentieux vis-à-vis des gens. J'ai découvert Léo Ferré, entre autres, en 1972 par la radio, par la chanson 20 ans. On peut ne pas connaître X artiste, on peut très bien ne pas apprécier, ne pas aimer, mais ça c'est une carence de ces gens-là. Ce qui reste au sommet est au sommet. Il faut savoir détecter, mais pour ça il faut un minimum de connaissances. Si vous êtes infirme à ce niveau-là, c'est dommage pour la personne. Voilà.
Si on reconnaît le talent par la culture et la connaissance.
Ah ben forcément, c'est la connaissance du domaine. C'est
d'accord.
La connaissance
ok.
Du domaine.
Donc il faut étudier alors pour connaître.
Ça,
c'est ça que ça veut dire.
À chacun sa voix.
Ben si, il faut étudier.
Oui, mais...
Selon vos dires.
À chacun. Il faut savoir, il faut savoir, chacun, à chacun ses moyens.
Bah, le savoir n'est pas inné, il faut bien l'apprendre.
Bien entendu.
Donc il faut étudier.
Je dis apprendre, il faut apprendre, la connaissance. Allez, vous savez écrire, vous?
Je sais écrire.
Oui, français.
Oui.
Vous avez qu'à l'école primaire, alors.
Oui.
Voilà. Donc, il faut l'école primaire, voilà. Voilà. A, B.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais j'ai le droit. Peut-être que c'est mon jeune âge qui me fait penser comme ça.
Non, ce n'est pas votre jeune. Parce que vous pouvez être un bébé, quelqu'un importe. Non, c'est parce que vous n'avez pas toutes les données. 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 Vous n'avez pas les données. Vous ne pouvez pas avoir autant de données sur l'art de quelqu'un qui a consacré plus de 60 ans de sa vie. Tous les jours.
Oui.
Donc c'est pas possible que vous ayez mes données. C'est impossible.
C'est sûr. Ah ben c'est sûr.
C'est impossible.
Mais je parlais juste de pouvoir être touché par un artiste, quel qu'il soit, sans forcément avoir les connaissances à côté.
Mais ça ne être touché par ça ne veut pas dire grand chose.
Oh si.
C'est trop superficiel.
Oh non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
Mais je ne vous dis, cher ami, moi je ne cherche pas à vous convaincre.
Ah d'accord.
Je ne cherche pas à ce que vous soyez d'accord avec moi. Je vous apprends des choses, c'est apprendre et voilà. Ce sera tant pis pour vous. Ce sera tant pis pour vous, moi.
Ou pas.
Hein? Comment dire? Comment?
Ou pas.
Il y avait à Annecy un centre pour les jeunes qui étaient des mômes sans famille, des mômes délinquants, machin truc. Donc des petits révoltés. Et d'un coup j'entends Léo Ferré. Et je pensais que c'est quelqu'un qui écoutait un disque, quoi. Je descends et je vois 300 jeunes gens qui écoutaient fascinés. Et lui, il était à un piano droit et il a joué pendant 2-3 heures, quoi. Et les mômes étaient fascinés, quoi. Alors, là, moi, j'étais sur le cul parce que j'écoutais parce que j'étais avec eux depuis quelques jours. Donc, je comprenais, je savais dans quel degré de révolte ils étaient et de problèmes avec la société. Et il y avait des jeunes mecs à qui j'ai parlé après, quand il a arrêté, qui applaudissaient à tout rompre et qui étaient branchés. Mais tu peux pas imaginer. C'est là où j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils disent que Léo, c'est compliqué, tu vois, à écouter. Moi, je voyais des jeunes gens qui entendaient, vraiment. Et quand ça s'est terminé, ils sont venus me voir et ils m'ont dit... Le mec, il m'a dit, putain, c'est qui, lui? Tu vois, un môme, un petit beurre, là. Il dit, c'est qui, lui? Et j'ai dit, c'est Léo Ferré. Putain, je connaissais pas. Il dit, c'est dingue ce qu'il raconte. Putain, c'est génial. Ce mec, il a totalement raison. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la force qu'un poète peut insuffler à des mômes qui n'ont même pas de culture et pas fait d'études, quoi. C'est juste la perception directe de cet homme direct qui ne mâche pas ses mots et dans ce qu'il dit a une puissance réelle. C'est comme si un mec était venu dire, t'as pas tort, quoi. C'est comme ça qu'il faut envisager les choses. T'as raison. Ouais, moi, c'est pour ça que je te dis que j'aime cet homme profondément pour le bien qu'il a fait. Au moment où il était au mai 68, où il s'est mis à chanter avec Zou. Et toute la jeunesse est venue voir ce mec. Et moi, j'ai vu des salles entières se lever, oh, regonfler à bloc, quoi. Putain, mais c'est quand même ça, la poésie.
Mais Mathieu, si bien que je suis con, hein. Voilà. Lola. Il livre comme bien. Voilà. Eh, Mathieu. Oui. Tu vois, il dit oui. Oui. Ah là là.
Et qu'est-ce que vous avez sous vos oreilles?
J'ai des micros. C'est vrai que depuis que je suis arrivée tout à l'heure, personne ne m'a posé la question de pourquoi j'avais cet accoutrement. C'est plutôt...
Mais c'est parce que je savais ce que c'était des micros.
Ah.
Et vous avez le fil aussi qui part.
Eh oui, exactement.
Alors, c'est facile, hein. C'est Charles qui est distrait.
Je rencontre Marie-Christine Ferré, la dernière femme de Léo, mère de ses 3 enfants. Elle déambule de la cuisine à la salle à manger. On a très peu échangé, elle et moi. Pas besoin, elle a compris. J'ai commencé à écouter Léo Ferré à l'âge de 25 ans à peu près. Avant, j'en avais entendu, mais je crois que j'étais pas prête, exactement. Le lendemain, nous passons un moment toutes les deux dans l'imprimerie de Léo Ferré. Dans le silence, à déplacer les meubles poussiéreux pour en extraire quelques archives, affiches et CD qu'elle m'offre généreusement. Et là, je déguste... le vin de Mathieu, sur la petite terrasse du domaine Léo Ferré. On entend les pompes de la cave qui tournent derrière. Je rentre la maison comme si c'était chez moi. Il y a écrit « Je t'aime » à la peinture rose dehors sur le mur de la maison, près de la table de jardin.
Voilà.
Sur le mur dehors, c'est écrit « Je t'aime ».
Oui, c'est Léo qui l'avait écrit.
Il faut le voir chausser ses lunettes, entremêler des syllabes, faire un retournement de situation et crier « Ta gueule » au spectateur qui proteste ou se prosterne, on ne sait plus. Minute mémorable, ironie et provocation. Voilà le cirque du mépris, de la glace et un numéro de charme digne de la plus belle des courtisanes. Ne fuyez pas quand Ferré chante la mémoire et la mer, car peut-être vous pleurerez en sentant les vibrations de l'eau. Ne fuyez pas pour le voir saluer à la fin, car il vous aime. Alors tant pis pour ceux qui n'ont pas compris ou n'ont pas voulu comprendre. Il y a écrit « Je t'aime » sur le mur. C'est plein d'amour ici, ça se sent. Plein d'amour et des gens qui vivent dans le souvenir.
Alors voilà, on peut dire que Léo Ferré est un super vivant. Et que ça va durer longtemps, même si les gens pendant un temps croient qu'ils l'ont oublié, il y aura toujours un moment où ils auront vraiment besoin d'une pensée comme celle-là pour se remettre sur le chemin de la vie. Ça peut rejaillir d'un instant à l'autre et puis ça peut nourrir tout le monde, c'est une richesse. C'est comme tu as une super cathédrale, à moins qu'on la détruise, et encore là on ne peut pas détruire Léo Ferré. Parce qu'une cathédrale, c'est vrai que tu peux la bombarder et la foutre en l'air. Où le temps peut venir à bout des pierres. Mais tu ne viens pas à bout de la pensée d'un homme comme ça, qui ouvre une voie royale dans la pensée, dans l'amour de la vie.
Longtemps encore, nous aurons besoin de Léo Ferré, de sa constance à conjuguer le verbe aimer. Ferré ou l'amour fou. Aimer d'abord, aimer avant toute autre chose. Ferré, sujet, objet et chantre de l'amour. Je t'aime d'amour. Il a aimé l'amour, l'a pratiqué, l'a écrit, l'a mis en musique, l'a chanté. Amour général.
Tu penses à quoi? À la langueur du soir, dans les trains du tiers-monde, à la maladie louche, au parfum de secours, à cette femme informe et qui pourtant s'inonde, au chagrin de la mer, planqué au fond des cours. Pense à quoi? À l'avion malheureux qui cherche un champ de blé, à ce monde accroupi, les yeux dans les étoiles, à ce maître inventé pour mesurer les plaies, à ta joie démarrée quand je mets à la voile. Tu penses à quoi? À ta tête de mort qui pousse sous ta peau, à tes dents déjà mortes et qui rit dans ta tombe, à cette absurdité de vivre pour la peau, à la peur qui te tient debout lorsque tout tombe.
Merci à Mathieu et Marie-Christine Ferré, à Charles, à Franz Vaillant qui a réalisé l'entretien avec Jacques Higelin.
Tu penses à quoi?
Merci à Françoise Travelet pour son livre « Dites donc Ferret », dont j'ai utilisé un extrait. Lucie Ardouin.com